Un quart d'heure plus tard, on frappe à la porte.
Entrez.
Entre Riquin. Les deux hommes se lèvent.
Riquin va vers eux.
Danfort dit : Je vous présente Monsieur Riquin, directeur général de la recherche biotech.
Monsieur.
Et monsieur est un ami. Le commissaire Denis Pierre. Asseyons-nous.
Et parlons. Vous voulez boire quelque chose, Riquin ?
Non, merci. J'ai fait des essais.
Sur le vin, on a mis des gènes de café fort pour éviter l'ivresse.
Le goût est bizarre.
Danfort dit à Riquin :
Je vous ai fait venir, c'est pour que nous vous parliez des transferts dans des données d'un cerveau à un autre.
Riquin lui dit : C'est très simple. Je mets à l'intérieur d'un cerveau transfert un émetteur et dans celui de l'autre un récepteur. C'est-à-dire que je mets une enzyme qui transforme toutes les données du cerveau en ultrasons d'une certaine fréquence. Cette ultrason quitte le cerveau pour aller dans les airs. Le cerveau aura un gène qui sera réglé pour lire ces ultrasons et transmettre les informations de cerveau en cerveau. Cette ultrason ne peut être reçu et lu que par le gène. Le commissaire lui demande :
Et comment allez-vous mettre cette enzyme dans le cerveau du transmetteur ?
En lui faisant un petit trou sur le devant de la tête.
Et au receveur ?
La même chose.
Le commissaire lui dit :
C'est impossible, je ne peux pas faire un trou dans le crâne de mon suspect.
Monsieur Danfort lui dit :
On peut peut-être le lui faire sans qu'il le sache, à condition qu'il ait un ennui, un malaise de santé. Vous le menez à l'hôpital et on l'opère.
Le commissaire lui demande : Mais quel malaise ?
Riquin réfléchit : Il peut recevoir quelque chose sur la tête. Et l'on l'opère pour lui enlever le sang qui allait inonder le cerveau. Quant à l'autre, on peut opérer en même temps. Il faudrait vous tenir prêt.
Denis Pierre lui dit : Moi ? Mais je ne veux pas être opéré. Je n'ai rien. Ce ne sera pas moi.
Mais qui alors ?
Un de mes hommes. J'en trouverai bien un qui veut y aller de l'avant avec une promotion.
Après une pause, le commissaire demande :
Le cerveau ne risque-t-il pas d'être perturbé ?
Riquin lui répond :
Non. Non, pas. Et puis si vous voulez, on peut lui implanter un signal. Comme cela, vous saurez où il se trouve. Vous me dites si vous êtes d'accord. Et il faut me fixer une date. L'opération se fera chez moi. Il faudra me l'amener de suite et le serveur devra être là aussi.
Le commissaire lui dit : Je vais réfléchir, chercher un serveur. Après, nous verrons. Je préviendrai Monsieur Danfort. Tout est tellement bizarre que j'ai besoin de temps.
Il se lève.
Merci, messieurs. Danfort et Riquin se lèvent.
Et il leur accompagne jusqu'à la sortie.
Thank you.
Le commissaire est dans son bureau, il réfléchit. Le bureau est une grande pièce blanche, avec stores blancs aux fenêtres. Les meubles sont des meubles de bureau tout simples. Il se dit,
il faut que je trouve quelqu'un pour cette expérience. Mais je dois faire attention. Si ça se passe mal, je ne dois pas avoir d'ennui. On ne sait jamais. Le cerveau, c'est fragile. Il peut en mourir, en devenir fou. Et s'il devenait définitivement le tueur, j'aurais des ennuis chez les syndicats, au ministère. Non, non. Il faut quelqu'un de petit. Parce que s'il lui arrive quelque chose, personne n'y fera attention. Voyons. Oui, un stagiaire. Ce n'est pas syndiqué, pas embauché. Il peut lui arriver n'importe quoi, personne ne s'en apercevra. Un stagiaire, ça n'existe pas. Un célibataire, deux familles modestes, qui connaît personne et qui vient tout juste de débarquer de sa campagne. Voyons. Le Mercier, voilà. Qui le connaît? Personne. Je vais demander son dossier. Prends son téléphone et fais un numéro. Allô, Félicie? Oui, c'est moi, ma chatte. Peux-tu m'apporter le dossier de Le Mercier? Merci. Il se dit, elle ne saura même pas qui c'est.
On a frappé à la porte.
Entrez.
C'est Félicie, une petite maigre, à jupe noire et chemisier blanc. Elle porte une chemise sur le bras.
Voilà votre dossier, monsieur le commissaire.
Elle le dépose sur le bureau.
Merci, ma petite Félicie.
Elle lui dit, oh, voyons, vous êtes coquin, vous.
Elle sort du bureau.
Denis-Pierre se dit, pauvre conne, elle croit avoir des notations sexuelles surtout, et n'importe quoi. On lui demande un dossier, ça l'excite de la même façon que si je mettais la main à sa chatte. Elle est constamment en chaleur. Il ouvre le dossier. Bon, voyons. Des parents décédés, pas de famille, fils unique, le père alcoolique, pays, le Motier, village de 500 habitants près de Grenoble. Pas de petit ami, ni d'amis, timide, recommandé par personne, habitant Paris, une petite chambre au Saint-Jacques, ne lit ou ne boit pas, ne fume pas, rien de rien. Il peut disparaître sans que personne ne le remarque. Voilà mon homme. Je vais tâcher de voir où il est et je le convoque. Il prend son téléphone et fait un numéro. Allô, chauffard? Ça va? Dis donc, où est le jeune Le Mercier? Qui c'est? Tu ne connais pas? C'est un stagiaire. Bon, bon, tu me l'envoies. J'ai quelque chose à lui demander. Oui, au stagiaire. Pourquoi pas? Merci.
Une demi-heure plus tard, on a frappé à la porte. Entrez.
Entre un jeune homme, grand, mince, cheveux châtains, visage très sympathique, dans les 22 ans. Il porte un costume beige.
Vous m'avez demandé, monsieur le commissaire ? Je suis le Mercier.
Le commissaire est surpris et s'attendait à quelqu'un de moins bien, plus anodin.
Oui, venez vous asseoir.
Le Mercier va s'asseoir en face du commissaire.
Le commissaire lui dit : j'ai besoin d'une personne qui me rende un grand service.
Voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour une mission délicate et confidentielle.
Je vous écoute, monsieur le commissaire.
Voilà, je tiens à savoir si une personne est le criminel de ces crimes affreux de femmes qui sévit dans Paris ces derniers temps.
Vous avez trouvé le criminel, monsieur ?
Oui, mais il ne veut pas avouer, et je ne peux pas le faire avouer comme ça. C'est une personnalité, il me faut des preuves sûres.
Vous voulez que j'enquête, que je le suive, monsieur ?
Non, j'ai une autre idée. Mais c'est ultra confidentiel. Personne, sauf vous et moi, devons le savoir.
Je vous écoute, monsieur.
Eh bien voilà. Si vous êtes d'accord, nous allons vous mettre dans le cerveau une chose qui vous connectera au sien. Comme cela, vous saurez tout ce qu'il pense et fait. Et comme ça, vous pourrez me dire s'il est vraiment le coupable.
Le jeune homme est ahuri, lui dit :
vous voulez me mettre quelque chose dans mon cerveau ? Oui, mais cela ne vous fera pas mal. Acceptez-vous.
Le jeune soupire, surpris.
C'est-à-dire que c'est un peu spécial, je ne sais pas.
Le commissaire lui dit :
vous me rendrez un grand service. Et serait le premier policier qui fait une enquête dans le cerveau d'un homme. Si vous réussissez, votre avenir est assuré.
Et comment allez-vous me faire ça, monsieur ?
C'est pas moi, un grand médecin qui va vous le faire. Et c'est sans douleur.
Et après ?
Eh bien, lorsque ce sera fini, on vous enlèvera la chose.
Ah, j'oubliais.
On va vous mettre un bip-bip. Comme cela, je serai constamment où vous serez.
Alors, c'est vous ?
Oui, monsieur, si ça vous rend service. Merci, mon petit. J'ai pensé à vous parce que vous êtes l'homme de la situation.
Semaine plus tard, M. Leclerc, en sortant de chez lui, reçoit sur la tête une tuile et tombe à terre, assommé. Vite, l'épicier du coin accourt à lui et, parce qu'il ne bouge pas, dit au curieux :
ne le touchez pas, je vais appeler les pompiers.
Et passe dans son magasin pour téléphoner.
Est arrivée une ambulance blanche qui s'est arrêtée près de Leclerc, toujours sans connaissance. Les ambulanciers
sortent, prennent un brancard et déposent le corps dessus. L'épicier va vers eux.
« Mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai appelé les pompiers !»
Le brancardier lui dit
« T'occupe !»
Mettre le brancard dans l'ambulance. Et l'ambulance est partie.
Et il est mené au laboratoire Riquin, où dans une salle d'opération, il y a déjà allongé sur une table le Mercier endormi, le crâne rosé. On déshabille le pauvre Leclerc, lui rase le crâne, le nettoie, on dépose la salle d'opération. Riquin, en tenue d'opération et des infirmières sont autour de la table. Riquin dit
« Pourvu que le choc de la tuile ne lui ait pas fait une énergie interne, nous allons ouvrir et commencer à l'opérer. Si c'est l'énergie, on arrête, on ne fait pas le transfert. Allez, ouvrons. »
Ils ouvrent la boîte crânienne et voient qu'il n'y a pas d'hémorragie.
Le cerveau n'a rien eu. Il est en bon état de marche. Nous allons pouvoir commencer l'opération du transfert.
Ouvrir l'autre maintenant, c'est-à-dire le Mercier. Et ils vont à le Mercier l'opérer, ouvrir le crâne. Puis ils vont retourner vers celui de Leclerc pour lui mettre l'enzyme et faire les branchements cerveux dessus. Grâce à l'ADN de le Mercier, l'enzyme et maîtrise marche. Puis ils vont aller chez le Mercier pour lui mettre le gène receveur et un bip-bip. Alors ce bip-bip permettra de voir où il est et en même temps permettra à le Mercier de recevoir des informations. On pourra lui donner des ordres. Le gène a été connecté au cerveau grâce à l'ADN. Puis on a refermé tout ça. Riquin dit,
vous allez m'envoyer Leclerc à la clinique de mon ami Lefort.
Lorsqu'il se réveillera, vous lui direz qu'il a reçu une tuile sur la tête et mis KO et fait une hémorragie interne. Opération urgente, etc., etc. Prévenir sa famille. Attention, il n'est jamais venu chez nous et ne le sera jamais. Amenez, allez, amenez-le.
Une infirmière lui demande,
et l'autre docteur?
Vous pouvez le laisser chez nous. Donnez-lui une chambre, il n'a pas de famille.
Claire était menée en ambulance dans une clinique. Elle était de suite déposée dans une chambre. On lui a mis le goutte à goutte, etc. Puis, on a prévenu sa famille.
Sa femme arrive. Elle demande à l'accueil.
Bonjour, je suis Madame Leclerc. J'aimerais voir mon mari.
Il a été chez vous pour cause d'accident.
Petite blonde regarde son ordinateur.
Oh, oui, madame. Vous avez les papiers pour l'inscription?
Madame Leclerc lui dit.
Mon mari a été gravement blessé. Et la première des choses que vous me demandez, c'est ses papiers. C'est insensé.
La femme de l'accueil lui dit.
Oui, mais sans papiers, il n'y a pas d'accueil. C'est-à-dire que votre mari n'est pas dans cet hôpital.
Madame Leclerc lui dit. Puisque je vous dis qu'il est. Il est là.
Oui, mais l'ordinateur ne veut pas savoir. Lui, il veut les papiers. Pour que l'on marque dans le dossier que votre mari, ce qu'il est. Comment peut-il savoir si c'est un homme ou une femme?
Madame Leclerc, furieuse, lui dit.
Je veux d'abord voir mon mari. Après, nous verrons tout ça.
La femme lui dit. Vous ne pouvez pas le voir tant que l'instruction sur l'ordinateur n'est pas faite.
Papier.
La femme lui sort tous les papiers qu'elle a dans son sac.
Tenez.
Voilà. La femme de l'accueil les regarde.
Il y manque la carte de sécurité sociale, les feuilles de paye. Il est à son compte.
Bon, alors, vous allez me donner date de naissance,
profession, adresse.
Une heure plus tard, Madame Leclerc longe les couloirs pour chercher la chambre de son mari.
Un homme à blouse blanche, costume cravate, renfort dans les 50 ans,
va vers elle.
Madame, vous êtes Madame Leclerc?
Oui, docteur.
Docteur Poirier, cela fait longtemps qu'on vous attendait.
Elle lui dit, c'est votre secrétaire qui m'a retardé. Bien, madame, si vous voulez bien me suivre, nous allons dans mon bureau.
Entrez, madame. C'est une pièce brute, blanche, avec un bureau en bois neuf, marron. Un placard, des chaises. Il va à son bureau.
Asseyez-vous, madame.
Elle s'assoit.
Que se passe-t-il? Qu'est mon mari?
Le docteur lui dit.
Votre mari a eu un accident. Une tuile lui est tombée sur la tête, ce qui l'a fait tomber à terre et perdre connaissance. Il a fait une hémorragie interne, c'est-à-dire que si on n'évacue pas le sang du cerveau, le cerveau va être inondé et il risquerait d'être paralysé et la mort imminente. Heureusement, il a été mené ici et opéré. Nous avons pu éponger le sang et votre mari est sauvé.
Merci, docteur. Puis-je le voir?
Il faudra attendre un peu pour qu'il puisse reprendre ses esprits.
Vous êtes sûr qu'il n'aura rien, aucune séquelle?
Non, madame.
Merci, docteur.
En fait, le médecin ne sait rien de tout ça.
Il ne sait pas ce qu'on a fait à Leclerc.
On lui a donné l'ordre de dire cela et de soigner comme ceci. C'est ce qu'il va faire. Pendant ce temps, au laboratoire, Le Mercier est dans sa chambre. On lui a mis le compte-gouttes, mais aussi un ordinateur, pour surveiller son cerveau, voir si les ondes de l'autre cerveau rentrent bien dans le sien. Pour le moment, il n'y a rien. Le cerveau est au repos. Le Mercier doit reprendre conscience et c'est long.
Le Mercier est dans un trou noir. Il n'y voit rien, n'entend rien, il n'est rien. Petit à petit, il voit du rouge, du vert, du bleu, en étincelle qui perce comme une aiguille ses yeux.
Et un bruit qui n'en finit pas.
Il semble lui poser les percer les tympans. Calme. Les couleurs reviennent de plus en plus lentement et de plus en plus pâles. Et c'est le blanc. Des songes étranges, des lieux, des gens qu'il n'a jamais vus ou entendus, se mélangent à des images qu'il connaît, mais ces images sont superposées aux autres et se brouillent les unes aux autres. Une femme nue, allongée sur un lit, lui tend des bras. Une robe rouge, on lui met une robe rouge, longue et ample. Il entend des pas. Des cris, des petites filles qui font la ronde et rient. Puis, des cris horribles de femmes. Qui n'en finissent pas. Cris insupportables, cris de bêtes que l'on égorge sous la lune. Qui pousse ce cri? Ce cri l'excite, le rend nerveux et heureux. Il n'y a comme une sensation de jouissance.
Thank you.
campagne, marche, un chien, de l'herbe, il se sent bien, un poirier, rien qu'un poirier, il n'a besoin de rien. Marche dans la nuit, marche, marche toujours. Le diable, tout tourne, il veut le cri et rien d'autre. De violentes poussées de douleur, douleur atroce au crâne, qui devient de plus en plus forte et paralyse ses membres. Cette douleur, si étrange, le met en sueur. Il ne voit rien. Il sent que ses yeux sont ouverts, mais ne voit rien que les images qui sont à l'intérieur de lui. Puis, il sent qu'il gonfle, gonfle, qu'il étouffe. Il aimait crier, mais ne le peut pas. Il a l'impression qu'on lui enfonce une aiguille dans le bras et un liquide chaud entre dans son bras. Il est brûlant.
Tu m'entends, mon chéri? Je suis ta femme. Tu m'entends? Je suis ta femme. Tu m'entends, mon chéri?
Cette phrase, dite en écho, lui fait mal. C'est comme si elle entrait de force dans son corps. Puis, plus rien. Ou des images qui vont très vite, puis c'est comme s'il y avait une bataille à l'intérieur de son cerveau, une lutte pour faire partir l'usurpateur qui veut prendre la place. Il le sent, car son cerveau lutte contre cette chose extérieure qui vient donner des ordres à l'intérieur de lui. Des images qui veulent s'imposer sont refoulées, troublées. Elles veulent s'imposer en donnant des messages à toute allure pour dérégler le cerveau et l'empêcher de s'imposer. Puis, c'est le repos, le noir.
Thank you.
durant tout ce temps, Riquin est près de le mercier et a assisté à la lutte des deux cerveaux. Le mercier est resté sans bouger pendant quelque temps. Alors, on le laisse seul et on vient le voir toutes les 2 heures. Riquin dit à l'enfant,
il faut qu'il reprenne des forces, mais son cerveau a connecté l'autre cerveau.
Comment le savez-vous?
Par les signaux qu'il a reçus, sa grande nervosité qu'il a eue. Attendons.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.